Chauvet, mars 2026. Période d'exploration scientifique de la grotte.
Le mois de mars, exclusivement à cause du taux de CO2 dans la cavité, qui, avec le réchauffement climatique, augmente beaucoup. Et c'est la période où il y en a le moins. Donc, c'est maintenant depuis plus de 10 ans qu'on vient en mars, pour cette raison.
On n'entre pas dans la grotte Chauvet comme on entre autre part. En réalité, on y entre presque jamais. Ici, le temps s'est quasiment arrêté il y a 21 000 ans, lorsque le porche s'est effondré, laissant un état de préservation de la grotte et de ses œuvres exceptionnelles. Depuis sa découverte en décembre 1994, chaque pas, chaque présence humaine est réfléchie, organisée.
Dans la mesure où effectivement le temps est compté dans la grotte, il faut évidemment rentabiliser au maximum ce temps de présence. Souvent c'est d'une année sur l'autre, c'est-à-dire on prépare les supports d'études pour la campagne suivante. Cette anticipation est absolument indispensable.
On est aussi tributaire, par exemple, des conditions météo-ambiantes. Lorsqu'il pleut, il y a certains secteurs, certaines salles de la grotte qui nous sont inaccessibles. Donc on doit un peu réajuster notre travail sur le terrain. Mais globalement, on essaye d'avancer secteur par secteur ou thématique par thématique afin de profiter du mois qui nous est accordé dans la grotte pour acquérir toujours plus de données que l'on va ensuite exploiter sur nos ordinateurs après, à partir du mois d'avril, par exemple.
Rentabiliser les temps dans la grotte est donc primordial. L'équipe scientifique a quelques semaines pour observer, mesurer, comprendre dans des conditions limitées.
On ne peut évidemment pas toucher les parois, déplacer les objets comme on pourrait le faire ou sur un site archéologique plus classique. Hein, et c'est l'aspect conservatoire de cette cavité exceptionnelle qu'il faut absolument préserver.
Et nous, généralement, avec Philippe, quand on travaille sur du matériel paléontologique, on le manipule, on le touche, on le regarde dans tous les sens. Et là, en l'occurrence, le matériel est face à nous, il est dans une posture, et on est là, j'aimerais bien voir ce qui se passe en dessous, mais non.
Aujourd'hui, nous n'irons donc pas dans la grotte, et pourtant nous allons essayer de nous en approcher, à travers les voix de celles et ceux qui y travaillent. Carole Fritz,
directrice de recherche au CNRS, et je dirige l'équipe scientifique qui travaille dans la grotte Chauvet.
Philippe Foss,
chercheur au CNRS à Aix-en-Provence.
Gilles Tozello,
je suis en charge de l'étude des parois et je suis à Toulouse.
Nicolas Frerbeau,
ingénieur de recherche à l'université Bordeaux-Montaigne.
Et Jean-Baptiste Fourvel,
chercheur au CNRS à Toulouse.
Il s'agit d'une partie de l'équipe scientifique. Ils m'ont accueilli dans le gîte qu'ils occupent à Vallon-Pont-d'Arc.
Oui. Bonjour.
Bonjour.
Je suis Christelle Borel de la radio Info RC.
Ouais, très bien.
Merci de...
Gilles et Carole sont là-haut de toute façon. Alors je vais vous accompagner pour vous montrer où c'est.
Mon idée, là, c'était plutôt de partir sur le fait que la grotte, elle est ouverte qu'au mois de mars, pendant un temps limité, que seulement quelques personnes peuvent y rentrer. Donc, quelque part, vous êtes un peu nos yeux, nos oreilles, notre nuit. Hein. Je n'irai peut-être pas jusque-là.
Ah, mais moi, je veux pas...
Donc, c'était vraiment essayer d'avoir un côté immersif, quoi. À la fois sur votre travail et à la fois dans la grotte. Bonjour.
Bienvenue dans ce premier numéro d'Empreintes d'Humanité, série d'émissions proposées par RDB, RCF, Fréquence 7 et Info RC, un programme radiophonique réalisé en partenariat avec le syndicat mixte de l'espace de restitution de la grotte Chauvet. Dans le prolongement des anniversaires des 30 ans de la découverte de la grotte Chauvet, des 10 ans de l'inscription UNESCO et des 10 ans de l'ouverture de Grotte Chauvet 2. Ce premier numéro est, vous l'aurez compris, consacré à cette période d'exploration scientifique de la grotte Chauvet.
Nous sommes samedi 14 mars 2026. Merci de me recevoir, Carole Fritz. Ben, c'est avec plaisir.
J'imagine que ça doit être intense en ce moment.
Oui, ben, tout le mois de mars est intense puisque ce sont les 4 semaines où nous travaillons dans la grotte. Bon, on n'a pas de week-end, on travaille du lundi au lundi et puis on monte dans la grotte du lundi au vendredi. Et ben, le week-end, on traite les données, on se repose aussi un peu, c'est vrai. Mais on est là pendant 4 semaines, il faut qu'on avance.
Qui décide qu'une exploration est nécessaire ?
Une exploration, bah, en fait, nous, on a un programme scientifique, donc on l'applique dans les conditions de conservation du site. Donc, on a nos programmes, on en discute avec l'équipe de conservation de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le conservateur qui s'appelle Gilles Soubigou. Voilà, on dit si, est-ce qu'on peut aller là, comment, dans quelles conditions. C'est une collégialité avec les membres de l'équipe et avec la DRAC.
Qu'est-ce qui distingue cette mission des précédentes ?
Distingue, on est dans une continuité de recherche. Ça peut sembler long, mais ça fait 30 ans qu'on vient là, mais ça ne fait pas 30 mois de recherche dans la grotte en réalité. Donc 30 mois pour un site comme Chauvet, c'est vraiment très peu. Et donc on continue à étudier les parois, les dessins, les ossements sur les sols. On a obtenu des autorisations de sondage dans la galerie des Mégacéros, c'est ce qu'on a commencé cette année. Donc on est dans cette continuité pour comprendre cet environnement, comment il a été utilisé par les humains, utilisé par les animaux, parce que l'humain a investi le monde de l'ours, par exemple. Et c'est cette combinaison étroite entre le monde animal et l'humanité qu'on essaie de comprendre au travers des dessins, au travers des vestiges au sol. Donc nous cherchons à comprendre ces liens entre l'humain et l'animal. Et grâce au sondage, on va avoir une vision des couches archéologiques et faire le lien entre les niveaux archéologiques et les parois.
Quand vous arrivez à la porte de la grotte ou à l'entrée, parce que je crois qu'il y a un sas à l'entrée, il me semble, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Quels gestes vous faites ? Quels équipements vous enfilez ? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce moment-là ?
Ben, toute l'équipe a plus ou moins le même équipement, c'est-à-dire il y a l'équipement d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue sécuritaire, spéléologique.
On commence à enfiler une combinaison plastique, donc type combinaison de protection. Il faut mettre aussi une charlotte sur la tête. On enlève nos chaussures, on protège nos chaussettes avec des surchaussures.
Et après, on a des outils qui nous sont propres, tout ce qui va être acquisition photographique ou scan mobile, panneaux de LED, éclairage portatif, parce qu'on est dans des secteurs de la grotte qui sont rarement facile d'accès, donc on a tout un équipement pour étudier les sols au mieux avec des conditions d'éclairage optimales et également tout ce qui est prise de notes, etc. Donc vous voyez, il y a ce package commun à toute l'équipe. La manière de travailler est la même, mais elle s'adapte au sujet de recherche que l'on doit faire sur les sols ou sur les parois à distance ou plus près, pour que l'on puisse contrôler toujours les informations que l'on avait vues les années précédentes ou de nouvelles hypothèses que l'on peut émettre au fur et à mesure que la connaissance avance.
Il y a tout un rituel à faire après pour descendre l'échelle métallique. Il faut enfiler un baudrier, se relier à un stop-chute, enfin matériel spéléo. Donc c'est pas très sportif, mais pour des raisons, on va dire, de sécurité, il faut accomplir tout ce rituel qui prend plusieurs minutes. Hein. C'est aussi pour ça qu'on échelonne le nombre de personnes, c'est-à-dire on ne peut pas tous rentrer en même temps, on ne peut pas rentrer à 12 à la fois, donc il faut aller par 2, par 3, etc. Parce que le sas est petit, hein. Ça fait peut-être, je sais pas, 3 mètres carrés, voilà, c'est assez bas de plafond. Les grands sont pénalisés, quoi. Et donc ça crée déjà une mise en condition qui n'est pas nécessairement agréable. Hein. Toutes ces contraintes, à la longue, jour après jour, c'est pesant quand même. Mais voilà, on ne peut pas tellement déroger, on est obligé de faire comme ça, quoi.
Mais justement, avant d'entrer, qu'est-ce qu'on ressent ? Qu'est-ce qui vous traverse à ce moment-là ?
Il y a toujours une petite excitation qui reste, savoir ce qu'on va trouver de nouveau. parce qu'il y a toujours des choses nouvelles à trouver, c'est ça qui est étonnant, hein, après toutes ces années. La grotte en elle-même, elle ne change pas. Enfin, on fait tout pour qu'elle ne change pas, qu'elle ne soit pas atteinte, modifiée, etc. Donc tout reste le plus stable possible, mais d'année en année, on devient de plus en plus familier des lieux, et surtout, on a de plus en plus des nouveaux outils. Et donc, ce qui était, par exemple, la 3D, il y a 10 ans, c'était exceptionnel. Maintenant, on ne peut plus s'en passer dans tous les domaines, parce que ça fait vraiment avancer les choses, de voir les données en relief, hein, dans leur volume réel, etc., y compris pour les dessins sur les parois. Hein. Donc c'est quelque chose qui est assez surprenant, c'est que finalement, après toutes ces années, on pourrait penser, moi j'ai souvent des gens qui me demandent, mais qu'est-ce qui reste à trouver ? Et en fait, on ne sait pas trop ce qui reste à trouver. Par exemple, le fait d'ouvrir un sondage archéologique dans une des galeries, c'est ouvrir à nouveau une porte vers un peu un inconnu. Ça fait longtemps qu'on en rêvait, et il a fallu attendre toutes ces années pour avoir toutes les autorisations nécessaires. Et là, c'est en train de se passer, donc on espère qu'on va arriver quelque chose qu'on n'attend pas, qu'il va y avoir des surprises, mais bon, c'est à peu près certain dans cette grotte, quoi.
Après, je pense que dans la mesure où on ne vient qu'une seule fois par an, donc le mois de mars, d'abord on est toujours conscient d'être privilégié de venir travailler dans cette grotte, et je pense que pour nous, les premiers jours de la campagne, ça s'inscrit toujours dans un peu un échange, parce que chaque année on rend des rapports qui sont à ses conséquences sous la direction de Carole. Et généralement, à la lecture de toutes les contributions de ce rapport annuel, généralement, quand on revient dans la cavité, les premiers jours, c'est des temps d'échange entre les différentes spécialistes pour actualiser ce qui a été écrit, rédigé, qu'on n'avait peut-être pas, nous, incorporé dans nos domaines respectifs. Et donc, généralement, ces deux, trois premiers jours peuvent être aussi l'occasion de rediscuter dans la grotte, devant un secteur particulier, des données qui ont été mises en évidence par les uns les autres. Et puis après, ça s'inscrit dans notre recherche qui est plus spécifique, avec le programme qui est défini chaque année sur compléter et toujours acquérir plus de données sur nos disciplines respectives.
Peut-être on peut décrire à quoi ressemble une journée type d'exploration ?
C'est un rythme qui est établi à l'avance, hein, puisque effectivement le temps dans la grotte est contraint. C'est entre, au maximum, 5 heures dans la journée, entre le matin et l'après-midi. Donc tout est prêt à l'avance, et on sait exactement où on va aller chaque jour, et où on va aller s'installer pour la journée, et quelles vont être les tâches à accomplir. C'est assez réglé, finalement, comme journée de travail.
Du coup, Nicolas, toi, qu'est-ce que tu fais plus particulièrement, et c'est quoi, toi, ta journée type ?
Alors, cette année, je travaille avec Nicolas Latteur, qui est archéologue au département de l'Ardèche, et tous les deux, on s'attache au sondage archéologique dans la galerie des Mégacéros. Notre journée, elle commence par l'installation de ce sondage, hein, puisqu'il faut mettre en place un certain nombre de protections avant de commencer à travailler, puisqu'évidemment, la conservation de la cavité, ça reste un point qui est au cœur de notre démarche et de façon de travailler. Donc ça suppose, hein, de bien délimiter les espaces, de tout correctement protéger et d'attaquer ensuite progressivement la fouille archéologique à proprement parler. Et après, ça, ce sont des choses qui sont plus classiques, hein, en termes de travail de l'archéologue, hein, donc avec les outils tels qu'on les représente, hein, de petits instruments de chirurgien, de pinceaux, de brosses, afin de décaper progressivement une toute petite surface du sol, afin d'essayer de comprendre la succession des passages, la succession des occupations à la fois humaines et animales dans cette galerie des Mégacéros.
Alors moi, de mon côté, je travaille en étroite collaboration avec Philippe Fosse. On va s'intéresser en particulier, nous, au sol archéologique et paléontologique, en particulier tout ce qui est reste osseux en surface, beaucoup d'ours, la grotte est connue aussi pour ça, outre l'art pariétal, mais aussi tout ce qui est empreintes, ce qu'on appelle l'ichnologie, les empreintes humaines, les empreintes animales. Donc si on a évidemment chaque année des objectifs, on identifie des secteurs, et là depuis quelques temps on travaille en particulier sur un secteur d'intérêt qui s'appelle la salle du crâne, tout au long du travail de terrain qu'on va mettre en place avec Philippe, évidemment on va se concentrer sur ce secteur sur lequel on va avoir une thématique et une problématique tout à fait spécifique, mais justement pour atteindre ce secteur nous déambulons dans la cavité sur les passerelles, et en fait toute cette déambulation est propice à des discussions, et finalement on met en lien un secteur isolé dans la cavité, dans son contexte plus global, au fur et à mesure de nos observations. Alors cette année, on a plusieurs enjeux qui sont mis en place, plusieurs questions. Il y a une problématique sur les ours et les restes osseux des ours qu'on va observer, documenter, dans cette fameuse salle du crâne, le crâne posé sur le bloc, mais qui est lui-même entouré d'autres crânes autour. On va avoir cette problématique de regarder tous les sols qui ne sont pas masqués par des dépôts de calcite épais qui ne nous permettent pas d'observer un passage, mais on va s'intéresser à des zones plus argileuses sur lesquelles on va avoir des empreintes, des impressions de pas humains, animaux, d'ours, de loups. Et on a un dernier enjeu cette année qui répond à justement toutes ces demandes qui ont été évoquées en amont pour pouvoir aller un peu plus loin sur nos questionnements. On est ici aussi sur une campagne de prélèvement, et avec Philippe, on est en train de collecter différents échantillons qui ont été soumis à autorisation en amont en vue de caler un peu mieux la chronologie du site dans le temps.
Est-ce qu'il y a des gestes plus difficiles que d'autres ?
Moi, dans mon cas, c'est plutôt le côté prélèvement. J'ai toujours une espèce d'appréhension à aller effectivement prélever, même avec des petits outils, des petites pinces, le matériel, parce qu'il y a mine de rien une forme de prise de risque. Donc moi, je me défausse. Je demande à Philippe. Il le fait très bien, au demeurant.
On sait que Chauvet, c'est un terrain qui peut être exigeant parce que, comme l'a souligné Carole, le taux de CO2 peut être élevé, que ça accentue la fatigue et qu'il faut donc être particulièrement vigilant et être aussi attentif à la fatigue des uns et des autres et composer aussi avec ça. Et donc on structure aussi notre planning en fonction de temps de repos dans la semaine et on alterne, on n'est pas tous en même temps, tout le temps présents dans la cavité. On a cette possibilité d'organisation là aussi également.
Alors on a parlé plutôt d'émotions négatives, on peut peut-être contrebalancer aussi avec le positif pour vous.
Pour moi, il y a plusieurs points positifs. Alors évidemment, il y a la grotte en tant que telle. Même quand on regarde les mêmes objets, on les voit tous les jours de manière un peu plus différente parce que l'expérience s'accumule, on discute entre nous, donc on avance. Ça, c'est un premier point extrêmement positif. Il est toujours agréable de rentrer dans cette grotte. Mais il y a aussi un autre point qui est extrêmement positif, c'est la cohésion d'équipe qu'on a, tout simplement entre nous, avec évidemment nos temps d'échange tout à fait professionnels. Nos temps de détente aussi sont importants et non négligeables. Et je pense que tout ça fait qu'effectivement, on travaille dans des conditions qui sont assez optimum.
Malgré les débats enflammés qui peuvent avoir lieu parfois au sein de l'équipe, c'est des choses qui nourrissent la dynamique de recherche et qui sont importantes, hein, de pouvoir confronter les points de vue, de pouvoir les discuter jusqu'au fond et sans aucun tabou au sein de l'équipe. Donc non, je pense que c'est important et c'est une équipe qui fonctionne très très bien pour ça.
Est-ce qu'on pourrait maintenant décrire, mais plus par les sens, qu'est-ce qu'on voit en premier, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui marque ?
À mon avis, ça doit dépendre de la sensibilité de chacun. Au sens où moi, par exemple, par nature et par intérêt, je vais regarder beaucoup les sols. Et en fait, le truc assez amusant dans cette grotte, c'est que finalement, il y en a tellement qu'on ne sait jamais regarder. Donc, c'est toujours extrêmement intéressant et passionnant. Et comme de toute façon, on est littéralement là pour s'amuser, à se poser des questions. L'œil, il va partout à la fois, il essaye d'associer les choses entre elles. Alors évidemment, on n'a pas nécessairement la réponse, mais c'est, pour moi, c'est cette sensation de regarder ces sols, et après un sentiment tout à fait personnel, travaillant sur les empreintes animales, je ne les vois pas comme quelque chose de statique dans le temps et dans l'espace. Mais si je regarde des pistes animales, je ne vois pas la piste. J'imagine plutôt, je transpose et je vois l'animal marcher. Ça devient presque vivant et dynamique. Mais ça, c'est une vision tout à fait enfantine. Mais je suis un grand gamin.
Il y a une forme de calme et de sérénité dans la cavité qui est liée, bah, évidemment, au milieu souterrain, à l'obscurité, au relatif silence qui y règne, et que ça peut arriver effectivement qu'on soit dans un silence quasiment absolu quand on travaille à deux dans un coin de la cavité, loin des autres. Et donc il y a cette ambiance un peu particulière, accentuée peut-être par cet éclairage limité, hein, qui est lié au frontal qu'on a sur la tête.
On entend quoi ?
On entend le des bruits un peu qui sont les bruits naturels de la grotte, hein, le goutte à goutte de l'eau qui percole du plafond et qui tombe sur le sol. On entend, particularité de la grotte Chauvet, hein, c'est ces circulations sur des passerelles métalliques. Donc forcément, dès qu'on a un collègue qui approche, on l'entend arriver au loin.
Il vient briser le silence.
Voilà. Et puis, on s'entend les uns les autres travailler, discuter. Il y a c'est cette sonorité-là qui domine un peu, quoi.
Dans cet espace confiné, vous êtes là, sous terre, autour de vous, des roches qui n'ont presque pas évolué depuis des milliers d'années, des dessins sur les murs vieux de 36 000 ans, des traces d'animaux. Est-ce que la grotte change votre rapport au temps humain ?
Déjà, l'espace n'est pas si confiné que ça. Et je dois dire que c'est peut-être la première fois que je suis rentré dans la grotte, la première chose qui m'a surpris, c'est qu'effectivement, quand on regarde tous les ouvrages sur la grotte Chauvet, on voit toutes les parois ornées, on voit des sols très riches, etc. On peut aller à la réplique, où on voit tous les panneaux ornés qui s'enchaînent. Et finalement, la grotte est quand même assez vaste.
Avec des grandes salles,
de grands espaces. Quand on arrive dans la grotte, on rentre dans une salle qui s'appelle la salle d'ébauche, qui est immense. Et si on n'a pas l'éclairage suffisant, on ne voit pas depuis la passerelle l'autre paroi de l'autre côté. Donc l'espace en tant que tel n'est pas confiné. Après, d'une manière globale, c'est le milieu souterrain a tendance à changer notre vision du temps. Quand on est dans ces milieux complètement obscurs et fermés, parce qu'on travaille tous ici dans notre cavité outre Chauvet, le temps ne passe pas du tout de la même manière. Et souvent, on ne voit pas le temps passer. On peut être dans une cavité et ne même pas ressentir de faim ou autre, parce qu'en plus, on est concentré sur notre tâche. C'est une forme de déconnexion de ce qui se passe à l'extérieur. Donc notre rapport au temps, selon moi, change nécessairement. Le fait d'être dans cet espace tout à fait particulier, sans lumière extérieure, uniquement nos lumières artificielles, le temps est comme si le temps se dilatait et on ne s'en rend pas compte.
Oui, oui, puis c'est toute la complexité de ce site. Finalement, vous mentionniez l'ancienneté des dessins et des 36 000 ans qui nous séparent de la réalisation des peintures. Que ce soit sur les parois ou sur les sols, la chronologie est extrêmement complexe. On se rend compte qu'on a différents moments d'occupation dans les différents espaces de la cavité, sur les parois également, différents moments de réalisation, et qu'on a énormément de difficultés à l'heure actuelle à cerner toutes ces dynamiques, à la fois humaines et animales, dans le temps. Et qu'on manipule en plus des échelles de temps qui sont gigantesques, hein. Qu'est-ce que c'est finalement 36 000 ans en arrière comparé à nos 2 milliers d'années d'histoire récente et qu'on doit voir tout ça. On aimerait pouvoir avoir des réponses parfois extrêmement précises. On pose des questions qui sont de l'ordre des fois du temps d'une génération humaine, de deux générations humaines, quand on parle d'occupation de la cavité, de réalisation des peintures. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos outils et nos méthodes, notamment le carbone 14, ben, les réponses que ça nous apporte, ce sont des réponses qui sont à l'ordre de l'ordre de plusieurs siècles, qui sont bien plus grands, des intervalles de temps bien plus grands que la réponse qu'on aimerait avoir. Donc on a toutes ces difficultés à surmonter en termes de chronologie. Et ça va rester, je pense, un axe fort de la recherche, hein, des prochaines années.
Vous parliez de privilège, mais est-ce que ce privilège aussi, ça vous donne pas une forme de responsabilité, de sens de responsabilité ? Comment vous vivez ça finalement ?
Très sereinement. c'est une recherche qui est vraiment collective, pluridisciplinaire. Donc, je veux dire, je pense que nous, on apprend les uns des autres à l'intérieur de l'équipe. Et puis après, on essaie de restituer un peu tout ce que l'on peut voir et tout ce que l'on peut comprendre de la grotte auprès du grand public dans le cadre d'expositions, dans le cadre de communication, de conférences, etc. Mais il est évident que cette grotte, elle est exceptionnelle, elle est tout à fait particulière. Et donc, on essaie également de partager ce que l'on pense comprendre avec les personnes ici en Ardèche, dans la communauté scientifique, de manière nationale, internationale, pour essayer de partager les émotions que l'on a à venir travailler ici depuis de longues années.
Visuellement, vous n'avez pas vu de changement.
Non, pas à notre échelle. Par contre, on voit que en fait, la mise en eau...
Partager leurs émotions, donner à voir au grand public, vulgariser la recherche, c'est ce qu'a fait l'équipe scientifique à l'occasion d'une rencontre en sortie de grotte avec les habitants le 25 mars dernier. Une initiative portée par la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche.
Alors moi c'est Nelly Duplan et je suis en charge de la culture pour la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche.
Pourquoi cet événement pour les habitants ?
Alors c'est parti en fait de tous ces grands rendez-vous, tous ces anniversaires, les 10 ans de l'UNESCO, les 30 ans de la découverte de Chauvet. Et c'est vrai que personnellement j'avais encore en tête le choc qu'on a eu au moment de cette découverte et le fait d'être vraiment cette sentie au cœur de l'humanité. Et ça c'est vrai que c'était quand même un sentiment assez incroyable qu'on a voulu repartager, soit avec les gens qui avaient le souvenir de ça, soit avec les nouvelles générations, les nouveaux habitants. Et l'idée c'était de pouvoir les mobiliser pour les habitants sur leur temps de campagne de fouille, voilà, ne sachant pas s'ils allaient accepter. On leur a posé la question, ils ont de suite dit oui, Carole Fritz, je vois qu'elle a beaucoup de facilité à échanger, c'est très accessible à tous, donc ça c'est quand même très intéressant. Et donc on s'est dit, pourquoi pas sortir du format conventionnel de la conférence pour aller vers un format plus simple finalement, puis qui s'approprie, c'est notre identité un peu commune, elle est universelle, mais c'est quand même sur notre territoire, quoi. Donc l'idée c'est vraiment de s'en emparer pour en être fier, quoi.
Étant du pays, on est très attaché à notre patrimoine. Donc la découverte qui maintenant date un petit peu, mais à l'évolution un petit peu du côté scientifique. Puis ça nous ramène quand même 36 000 ans en arrière, quoi. Voilà.
Je trouve que c'est sympa, ne serait-ce que parce qu'il y a toute l'équipe en même temps. On est allé souvent à des conférences, mais c'est une personne qui fait la conférence. Là, il y a l'équipe entière.
Je trouve ça très, très positif. Justement, qu'il se rapproche de la population pour nous faire part de leur recherche. Je crois que ça, c'est moi, je le ressens de façon très, très positive.
Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de Préhistoire, Terre d'Histoire, un cycle d'expos, d'ateliers, de rencontres et de visites proposés jusqu'au mois de juin sur le territoire des Gorges. Vous pouvez retrouver tout le programme sur le site de la communauté de communes. Le mois de mars se termine, la grotte Chauvet se referme pour un an, gardant avec elle la mémoire du monde. Il est temps également de clôturer ce premier épisode d'Empreintes d'Humanité, magazine préhistorique et scientifique que vous pouvez écouter sur les fréquences des quatre radios partenaires, RDB, Fréquence 7, RCF et Info RC.